bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Il est bon que nous commencions l'année par une réflexion sur la beauté, la suite n'étant pas assurément belle, mais espérons que le coup d'envoi sera décisif. Comme nous savons, la philosophie ou les philosophes ont de tout temps, en tout cas certainement depuis Platon, était étonné de ce que la réalité sensible, si mouvante, si diverse, si fragmentée, puisse porter en elle quelque chose qui la dépasse et qui cependant l'habite, à savoir la beauté. Et de son côté, le christianisme a su surmonter, transgresser, non sans peine et polémique, l'interdit biblique de l'image, en acceptant que le visage du Christ, donc du divin, soit figuré à travers les icônes, donc qu'à nouveau le sensible, malgré toutes ses faiblesses et lacunes, soit capable de porter ce qui le dépasse absolument. Et par là même, certainement que le christianisme n'a pas peu contribué à la grande aventure occidentale des arts, et même évidemment au-delà de l'Occident. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre d'artistes ou de philosophes nous expliquent que la beauté est un concept à abandonner, en même temps peut-être même que l'idée d'œuvre d'art, puisque, avec Marcel Duchamp, dont on donne une exposition aujourd'hui à Beaubourg, le « ready-made », c'est-à-dire l'idée que n'importe quel objet peut devenir œuvre d'art, semble avoir conquis le terrain. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est que l'idée de beauté ne peut pas mourir, n'est pas morte, pas plus que l'idée d'art, et en m'appuyant sur un domaine spécifique et neuf, qui est le domaine du cinéma. Prendre appui sur le cinéma, qui est un art nouveau, pour montrer la permanence et la nouveauté de la beauté qui, grâce au cinéma, prend des formes sans précédent et même des formes surprenantes. Alors évidemment, l'approche que je vous propose ce matin est un peu contradictoire, même paradoxale, puisque nous allons parler de la beauté du cinéma sans la voir, ce qui évidemment est étonnant, mais je suppose que chacun et chacune d'entre vous a par-devers soi un capital de mémoire concernant des films, et donc que les allusions que je pourrais faire revitaliseront cette mémoire. De toute façon, cela aussi peut vous inviter à fréquenter plus assidûment les salles obscures ou les DVD pour méditer sur un art, je crois, très fondamental aujourd'hui. Alors, ce que je vais avancer, c'est évidemment quelques propositions strictement personnelles. On pourrait dire beaucoup d'autres choses que ce que je vais dire. Donc, je mets ça sous le sceau de réflexions propres, évidemment contestables. Alors, je voudrais d'abord précisément m'arrêter sur cette idée d'un art neuf. Si la beauté du cinéma est neuve, c'est que nous avons affaire, et peut-être n'y réfléchissons-nous pas assez, à un art neuf lui-même. Je voudrais ensuite m'arrêter sur quel type de beauté, finalement, au cinéma, car il y a une forme, me semble-t-il, ou des formes particulières de la beauté, et enfin m'interroger dans une troisième partie pour savoir à quelles conditions, finalement, le beau peut apparaître dans le cinéma. À quelles conditions? Ce qui veut dire que tout n'est pas nécessairement à prendre et qu'il faut que le cinéaste respecte un certain nombre de conditions. Je vais en énumérer quelques-unes, à mes risques et périls. Alors, je voudrais d'abord noter dans un premier point, qui peut être rapide, car il s'agit finalement d'une banalité, mais d'une banalité qui n'est pas toujours prise en compte à sa juste mesure, à savoir que, finalement, le cinéma est un art neuf. Et je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, pour être un peu audacieux, il est arrivé très souvent qu'un art surgisse, j'allais dire de la cuisse de Jupiter, comme quelque chose de vraiment nouveau. Or, il en est ainsi, du moins me semble-t-il, dans le cas de cet art qui est né il y a un peu plus d'un siècle et qui a bien la prétention, au moins dans les plus grands, de proposer quelque chose comme de la beauté. Alors, je relève quelques traits. D'abord, c'est un art neuf, depuis le muet, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, donc un siècle et demi. C'est un art neuf, c'est un art, diraient nos amis anglo-saxons, compréhensif, c'est-à-dire total, qui inclut en lui-même l'image, bien entendu, la musique, le théâtre, le scénario, la parole, donc un art vraiment, par certains côtés, total, et qui se donne le droit d'aborder tous les sujets, c'est-à-dire aussi bien des sujets comiques que des sujets policiers, que la religion elle-même ou l'histoire. Et de ce point de vue-là, c'est un art certainement très ambitieux par rapport à beaucoup d'autres. Il faudra ajouter que cet art qui est né donc il y a un siècle et demi est un art évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé. Nous avons connu le muet, puis le parlant, le noir et blanc, puis la couleur, aujourd'hui les 3D, qui n'a pas encore donné sans doute toutes ces références possibles, mais on voit très bien que c'est un art qui n'est pas du tout figé et qui est lui-même en pleine évolution. Mais cet art, autre remarque, a conquis, je crois que c'est quand même peu contestable si on le fréquente, ses lettres de noblesse. Et il a trouvé un langage qui lui est propre. Il a trouvé sa forme spécifique. Alors, qu'il ait connu et qu'il connaisse des chefs-d'œuvre tout à fait admirables, il suffit d'évoquer les noms, tout simplement d'un Charlie Chaplin. C'est une œuvre absolument magnifique, inégale, comme toutes les grandes œuvres, mais on pourrait parler de Fritz Lang, John Ford, Rossellini, Bergman, Dreyer, et ma liste évidemment est loin d'être exhaustive, mais si l'on est attentif à leurs œuvres, je crois qu'il est difficile de contester qu'on a affaire ici à des œuvres absolument splendides. Je voudrais ajouter que cet art est un art populaire et un art de masse qui enjambe les frontières. On pourrait dire de ce point de vue-là que c'est un art assez bien accordé à la mondialisation, surtout peut-être avec le muet. Charlie Chaplin, Buster Keaton peuvent être vus, je dirais, dans le monde entier, parce qu'à travers les gestes, c'est-à-dire à travers le corps, un message passe qui peut être accessible, je dirais, à n'importe qui. Donc, art de masse qui enjambe les frontières, qui enjambe les classes sociales, comme il enjambe les âges de la vie. Art, par conséquent, populaire et de masse, mais on voit aussi le danger de cet art très séduisant, c'est celui de servir aux propagandes politiques. Et Dieu sait si, au XXe siècle, ce cinéma a servi aux propagandes nazies ou bolcheviques. C'est-à-dire, il a servi à inculquer aux masses et aux foules des idées au service de régimes politiques. Et donc, il est bien vrai aussi que, plus largement que cette utilisation totalitaire, il peut servir à l'abrutissement des foules à travers le pur divertissement, l'érotisme affiché ou des films terrorisants. Donc, art populaire, on peut le mettre à son crédit, sans oublier effectivement le côté négatif de cet art. Il faudra ajouter encore qu'il s'agit d'un art industriel. Il y a derrière le cinéma, on peut penser à Hollywood, mais à bien d'autres lieu de fabrication du cinéma, toute une industrie extrêmement importante sans laquelle il n'existerait pas. Et évidemment aussi un art commercial, me semble-t-il, à un niveau peu égalé dans le passé pour tout autre art. Bien sûr, il y avait des mécènes à la Renaissance, il y en a toujours eu, il y a eu des princes qui s'intéressaient à l'art et qui voulaient que l'art finalement les exalte. Mais il me semble que le cinéma représente ici à nouveau quelque chose d'original et de neuf. Là, à nouveau, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que la reproduction, et la reproduction presque indéfinie, est un vecteur d'expansion de cet art. Et on pourrait dire que cette expansion par la multiplication des pellicules, etc., ou des DVD aujourd'hui, met en défaut, me semble-t-il, les craintes exprimées dans les années 30 par Benjamin, le philosophe juif Walter Benjamin, qui craignait que la reproduction ne détruise la spécificité de l'œuvre d'art. En ce qui concerne le cinéma, il me semble que cette thèse se trouve contredite. Au contraire, la reproduction, c'est ce qui permet la large diffusion du cinéma, et je dirais même, comme il est possible aujourd'hui, de refaire à neuf des pellicules qui étaient anciennes. On l'a vu pour Hulot, on vient de le voir pour Tati ou pour Jacques Demy. Bien entendu, cette industrialisation est aussi un facteur de fragilité et de précarité, parce que, évidemment, derrière l'industrie et le commerce, il y a la finance. Et on voit très bien la grande difficulté pour des petits producteurs, pour des gens qui commencent et qui peuvent être pleins de talent, de se lancer dans un domaine où, en effet, les barrières financières peuvent être décisives. Alors, je dirais, et je termine ma première partie par là, qu'il s'agit en effet d'un art nouveau qui pose à la réflexion des philosophiques, d'ailleurs, comme théologiques, des questions nouvelles. De quoi s'agit-il au juste? Est-ce un art d'abrutissement des masses ou au contraire un art d'éducation des masses? Quel rapport a-t-il aux images et à l'image? Qu'en est-il de l'imaginaire humain que traite le cinéma? Qu'en est-il de ce spectacle collectif? Car en dehors du cas des DVD où l'on peut voir ça solitairement ou entre copains ou en famille, c'est tout de même un art collectif. Qu'en est-il? Et l'on peut en effet se poser la question de savoir est-ce que finalement le cinéma ne nous fait pas revenir au fin fond de la caverne de Platon, puisque, comme vous savez, le geste de Platon consiste à chercher à émanciper l'homme ordinaire de la fascination pour l'image, pour la reproduction indéfinie sur un écran, enfin, sur le mur de la caverne, pour l'arracher à ce monde de l'illusion pour le faire accéder au monde vrai. Alors, est-ce qu'en réalité, le règne des salles obscures et la nouveauté du cinéma ne nous fait pas, non, nous fait pas aller de l'avant, mais ne nous renvoie pas à la domination de l'image contre le concept, donc ne nous enferme pas à nouveau dans la caverne? En ce sens, il s'agirait plus d'un avilissement que d'une nouveauté créatrice. Et on peut en effet légitimement poser la question et certainement pas de la poser. Alors, ces perspectives mises en avant, je voudrais m'interroger dans une seconde partie. Quelle beauté neuve? Quel type de beauté? Je ne suis pas sûr d'être tout à fait au clair moi-même, mais enfin, on peut tout de même se risquer à s'avancer sur ce fond de la caverne. Ben, je dirais que la beauté ou la nouveauté de cette beauté est à chercher, en effet, et nous restons bien dans la caverne, dans une certaine façon de traiter l'image et de traiter l'imaginaire du public. Et comme tout art, on pourrait dire que le cinéma fait du vrai, entre guillemets, avec du faux. Il crée de la réalité avec de l'illusion et on pourrait même dire avec du mensonge. Certains philosophes n'ont pas hésité à dire que l'art était mensonger. Nous lisons des romans, mais qui nous entraînent dans des mondes fantastiques qui n'ont jamais existé. La peinture, même chose. Le théâtre, encore plus. Et donc, est-ce que l'on ne crée pas un monde irréel qui pourrait justifier la crainte ancienne et maintes fois formulée d'un enfermement dans les fantasmata? On pourrait évoquer ici Augustin qui craignait que, bien avant le cinéma, bien entendu, ça va de soi, qui craignait que l'homme soit enfermé dans le monde des images, dans l'imaginaire grouillant, qui peut être toujours exploité dans un mauvais sens. Mais on trouverait chez Bernard de Clairvaux, chez Jean de la Croix, des mises en garde, je vais dire, assez féroces contre cette domination de l'image. Et en effet, on peut se demander si le cinéma ne nous met pas dans un monde, ne nous enferme pas dans un monde irréel ou qui serait peut-être même plus vrai que le monde vrai. Et on pourrait penser à la célèbre page de Nietzsche, selon lequel, décidément, nous avons aboli le monde vrai, le monde idéal, au profit du seul monde de l'apparence et de la perspective phénoménale. On pourrait donc se demander si la beauté cinématographique ne nous propose pas une beauté plus belle, ou plus illusoire, comme on voudrait, que le monde terne et quotidien qui est le nôtre. Est-ce que le cinéma ne nous propose pas une beauté enchanteresse, évidemment qui nous séduit, précisément dans la mesure où elle est fausse, qui serait au fond un monde de compensation, ce serait aussi une autre critique qu'on pourrait faire, soit à l'égard de la banalité du quotidien, on va rêver des princesses ou des princes charmants, on va rêver de faire fortune, ou qui compense par rapport à la misère humaine que l'on connaît, opium moderne du peuple. Et je voudrais faire ici allusion aux thèses de Gilles Deleuze, philosophe français que vous n'avez sans doute pas lu, mais qui est en effet peu lisible parce qu'il joue de l'hermétisme, mort en 1995, donc il y a une vingtaine d'années. Il s'est d'ailleurs suicidé. Et il a écrit deux gros livres, qui s'appellent « Cinéma 1 » et « Cinéma 2 ». Cinéma 1, avec sous-titre « L'image-mouvement » en 1983, et « Cinéma 2 », « L'image-temps » en 1985. Alors, l'idée de Deleuze, pour autant que je la réduise à sa plus simple expression, et je répète que c'est un auteur très compliqué, peut-être même incompréhensible, mais c'est ce qui fait son charme. Le monde du cinéma, dit-il, est devenu notre monde. Pour la bonne raison que notre monde, le monde quotidien, c'est déjà celui de l'image. Donc les deux thèses se joignent. Notre monde est devenu le monde du cinéma. Parce que le monde dans lequel nous vivons est déjà le monde du cinéma. On pourrait rejoindre ici les thèses d'un sociologue ou d'un pseudo-sociologue qui s'appelle Jean Baudrillard, qui est mort lui en 2007 et qui a écrit un livre très provocateur qui s'appelle « La guerre du Golfe n'a pas eu lieu » et qui a écrit un autre texte encore plus scandaleux, « Power Inferno, Requiem pour les Twin Towers » où il nous explique, voilà la thèse, et je crois qu'il rejoint celle de Deleuze, qu'au fond, les Twin Towers, n'est-ce pas, l'attentat de 2001, personne d'entre vous ne l'a vu. Nous n'étions pas à New York. Et même ceux qui ont vu s'effondrer les tours, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des tours s'effondrer. Mais ce n'est pas ça le réel, ce n'est pas ça l'important. L'important, nous dit Baudrillard, c'est l'effet virtuel. Nous étions tous devant notre écran, et le but, c'est-à-dire le réel, c'était de nous terroriser. Mais nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu que du virtuel. Alors on pourrait le dire des génocides, nous n'avons pas vu les génocides, nous ne les voyons pas. Nous ne sommes pas en Irak pour voir les horreurs actuelles. Nous, les tsunamis, nous les avons vus à travers les images, c'est-à-dire le virtuel. Les guerres, elles ne sont connues que par les images diffusées. Donc c'est le monde du cinéma qui est le monde vrai. Nous sommes dans le monde vrai parce que nous sommes dans le monde du cinéma. Et c'est un monde à la fois insaisissable et à ce titre décevant. Alors je vais citer, j'en reviens, je laisse de côté Baudrillard. Je cite donc notre ami Deleuze. « Le fait moderne, écrit-il, c'est dans le deuxième tome, page 223, « Le fait moderne, c'est que nous ne croyons plus en ce monde. Nous ne croyons même pas aux événements qui nous arrivent, l'amour, la mort, comme s'ils ne nous concernaient qu'à moitié. » Seule la croyance au monde peut relier l'homme à ce qu'il voit et entend. Il faut que le cinéma filme non pas le monde, mais la croyance à ce monde, notre seul lien. Nous redonner croyance au monde, tel est le pouvoir du cinéma moderne, entre parenthèses, quand il cesse d'être mauvais. Donc il y a quand même un petit jugement esthétique et moral. Fin de citation. Au fond, et nous rejoignons ici une thèse nietzschéenne, il ne faut pas oublier que Deleuze a écrit de très beaux livres sur Nietzsche, une thèse nietzschéenne à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est qu'au fond, l'art cinématographique nous rendrait le monde supportable. C'est une grande idée de Nietzsche, reprise d'ailleurs de Schopenhauer, à savoir que l'art nous permet de supporter le monde. Sans l'art, pourrions-nous supporter le monde? Il me semble qu'il y a là une référence. Au fond, le cinéma où l'art, mais disons le cinéma dans le cas de Deleuze, est une illusion mensongère qui nous permet de ne pas voir la vérité horrible du monde. Il nous fait croire. Je vous renvoie au paragraphe 344 du Gai Savoir, en quoi nous aussi, nous sommes encore pieux. Nous, c'est nous les modernes qui sommes d'après la mort de Dieu, nous restons des croyants parce que nous croyons en l'illusion de l'image. Beauté d'un monde irréel qui permet de surmonter la vie. Alors on pourrait penser ici, je prends cet exemple, au cinéma de René, qui est mort au début de cette année. Alain René, il a commencé à se faire connaître à travers Nuit et brouillard, Nacht und Leben, sur les camps de concentration. L'horreur, mais l'horreur en images. Et il a terminé, il paraît que ce n'est pas tout à fait son dernier film, par le film que vous avez peut-être vu, qui est sorti au début de l'année, Aimer, boire et chanter. Où la mort, sa propre mort, parce qu'il va mourir juste après, et il se savait atteint, la mort est un théâtre. Ce sont des personnages qui jouent une comédie. Vous voyez, quand Deleuze nous dit « nous ne croyons pas à sa mort », mais cependant il la joue. Et c'est une façon de la supporter, finalement, de dire « vous voyez, c'est pas si grave, c'est un jeu, c'est inutile ». Voilà, on est tout entier dans le décor de théâtre, et pourtant cela touche une question existentielle. Mais on pourrait dire qu'elle est dévitalisée de son drame parce qu'elle est un magnifique mensonge, magnifique mensonge. Beauté illusoire, beauté mensongère, mais beauté qui nous permet de supporter l'horreur du mal, l'horreur de la guerre, l'horreur de la mort. Est-ce qu'on peut accepter cette lecture de Deleuze? C'est une seconde remarque que je voudrais faire dans cette seconde partie. Mais vous voyez bien qu'il y a une thèse très forte, certainement, mais qui risque d'hypostasier le cinéma comme un substitut au monde. Alors, je voudrais simplement faire trois remarques. C'est pas facile de critiquer comme ça, de coups de cuillère à peau, un philosophe quand même important, à la mesure même de son obscurité, comme Gilles Deleuze. Ben, je dirais d'abord que, une vérité d'évidence, nous n'avons pas perdu le monde. Nous avons perdu peut-être, et Nietzsche a raison, Deleuze aussi, nos illusions sur le monde. Nos illusions sur le monde. Il suffit d'ouvrir votre journal quotidien par rapport à nos illusions que le monde, les gens étaient faits pour la solidarité, qu'on allait vers la paix, vers le progrès scientifique, vers l'avenir radieux. Difficile quand même, quand on regarde notre grande télévision, de ne pas voir ressurgir la barbarie des hommes. Alors, nous sommes dans ce monde sensible, nous adhérons à ce monde parce que, justement, ces images, et nous ne voyons que des images, nous révèlent ce qu'il en est du monde véritable, du monde des hommes. Alors l'image peut nous anesthésier, peut nous narcotiser, peut nous entraîner dans le mensonge, dans la complaisance. Et Dieu sait si on peut s'imaginer que le réel n'est plus que le virtuel, ou que le virtuel tient lieu du réel. Mais ces images du monde, elle nous donne à voir le monde autrement si nous ne sommes pas totalement dupes de l'illusion. Ce n'est pas un imaginaire, je dirais un peu contre Deleuze, qui est un substitut du réel, mais c'est un imaginaire qui nous y reconduit. Et donc de ce point de vue-là, l'image est une éducatrice terrible, féroce, indomptable de la gravité et de la dureté du monde. Alors nous pouvons aller, et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, tranquillement nous coucher ou prendre notre souper après avoir vu les horreurs en Irak ou en Syrie, n'empêche que nous les avons vues. C'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'aucune image, et je crois qu'on touche ici un point essentiel, aucune image au cinéma, mais à la télévision aussi bien, ne se suffit par elle-même. Aucune image ne se suffit par elle-même. Elle est par essence frustrante. Elle est limitée. Elle est insatisfaisante. Comme le désir qu'elle entretient et qu'elle a vive. Et donc on pourrait dire que, à travers la multiplication des images dont nous sommes aujourd'hui les témoins un peu effrayés, il y a un geste iconoclaste. J'avais un peu regardé André Warhol, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, André Warhol, qui a dessiné Mao, Marilyn Monroe, enfin qui a fait des reproductions indéfinies. Et on dit, voilà, il est victime de cette espèce de folie de l'image, de la reproduction. Mais je crois qu'à travers la reproduction indéfinie de l'image, il la tue. Il la tue. Marilyn Monroe, c'est quoi finalement? Alors, je laisse de côté notre ami Warhol, qui est un auteur contesté, mais je dirais, un des aspects paradoxaux du cinéma, c'est le côté iconoclaste. L'image se dévore elle-même et il est impossible dans un film de se fixer sur une image. Impossible de se fixer sur une image. C'est pourquoi l'image ouvre à autre chose qu'elle-même. Elle fait signe. Elle ouvre à autre chose qu'elle-même. Elle évoque sans combler. Ou alors, on a affaire à de l'idolâtrie de l'image, et c'est ce qui justifierait l'iconoclasme, c'est-à-dire la destruction de l'image. Alors, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'image, au cinéma en particulier, ne peut être lue et interprétée que par une subjectivité vivante, que par un être de culture et d'esprit. Finalement, bien entendu, le tsunami, nous ne l'avons jamais vu, les génocides, nous ne voyons que les cadavres. Mais si nous avons un peu d'éducation, et je suppose que nous en avons un peu, nous ne sommes pas totalement dupes de l'image. Nous ne pensons pas que c'est un type qui s'est amusé à mettre des cadavres en série sur une scène. Donc si nous sommes un tout petit peu éduqués, nous comprenons ce qu'il en est de l'homme, de l'humanité, du monde actuel, de la guerre, etc. Nous ne sommes pas, contrairement à ce que dit Deleuze dans d'autres textes, des machines désirantes. N'est-ce pas? Sa grande idée, c'est que nous sommes des machines désirantes. Certes, nous désirons, je ne sais pas si les machines désirent, mais nous ne sommes pas des machines désirantes sans sensibilité et sans intériorité. On pourrait dire que le monde de l'image, mensonger par beaucoup de côtés, interpelle une subjectivité dans la mesure même où cette subjectivité possède en elle-même une vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle a une culture, la possibilité de déchiffrer l'image et dans la mesure du possible de distinguer ce qui est mensonge excessif, ce qui est propagande, ce qui est bourrage de crâne et ce qui est témoignage indubitable qui peut être effrayant, mais qui nous dit aussi quelque chose de l'homme et qui à ce titre a quelque chose de beau. Alors bien entendu, c'est ma troisième remarque, nous n'arrivons pas neutres devant l'image. Mais nous sommes déjà habités par une culture. Par une culture ou une inculture qui nous fait avaler comme rien ce que nous voyons. Et c'est cette culture qui structure et commande notre rapport à l'image. Alors on pourrait dire que de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut voir la beauté du cinéma américain, je pense à John Ford, si l'on n'a pas de culture biblique? John Ford, il nous raconte des histoires de policiers, de gangsters, etc. Et donc on peut s'en tenir à ce niveau-là, nous dire il nous amuse, c'est très drôle, qu'est-ce qu'on rigole à voir tous ces gangsters qui se détruisent les uns les autres. Mais si vous avez un peu de sens de la Bible et du christianisme, vous voyez qu'il y a toujours dans le tas un pauvre type qu'on accuse à tort, que vous avez un sauveur quelque part qui va le tirer de là, que vous avez un avenir, c'est-à-dire une résurrection. Alors, voilà, on peut lire cette image à plusieurs niveaux. On peut dire, il nous amuse, c'est très drôle, John Ford, l'Américain, il joue avec les revolvers, le type ressuscite après, etc. Et puis, vous pouvez voir plus. Voilà, on pourrait dire la même chose de la littérature américaine, qui est pétrie de Bible. Alors, si on ne le voit pas, je dirais la même chose d'ailleurs pour Proust. On peut dire, c'est des histoires d'alcôve, n'est-ce pas, avec Albertine et tout ça, puis on peut voir plus. C'est-à-dire que la beauté, elle n'apparaît qu'à la convergence de l'apport illusoire de l'image et d'une subjectivité qui l'accueille. C'est ce qui, me semble-t-il, rend compte de l'extrême variété des jugements de goût. Et nous trouverions ici le père Kant. Extrême variété des jugements de goût. Bien entendu, le jugement de goût est un jugement. Kant a raison de dire cela, c'est un jugement. Je peux dire pourquoi j'aime Ford et pourquoi je n'aime pas X ou Y. Et vous pouvez me dire pourquoi vous, au contraire, vous l'aimez. Mais à la fin des fins, c'est mon goût et le vôtre. Et ce ne sont pas les mêmes, et peut-être heureusement. Mais nous pouvons en rendre compte. Par conséquent, la lecture de toute image, la perception de sa beauté, ou le jugement que ce n'est pas beau, suppose un sujet qui lit cette beauté, qui la voit, ou qui l'ignore, ou qui reste impavide, parce qu'il est grisé de violence lui-même et qu'il ne voit plus. Encore une fois, je crois que c'est une thèse essentielle que la beauté ne s'impose pas. Je vais y revenir tout à l'heure dans ma troisième partie. Si elle s'impose, c'est qu'on a affaire à de la propagande, à du matraquage, ou à de la pornographie, ou de la violence pure. La beauté s'offre à qui sait la voir. Alors, on pourrait dire que c'est un cercle, on ne voit la beauté que si on est capable de la voir, et la beauté ne se révèle qu'à celui qui la voit. Excusez-moi, mais il me semble que ce n'est pas très loin de ce qu'on entend dans l'Évangile et qui nous scandalise si souvent. Ils ont des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. Alors, on peut dire qu'il y a un certain fatalisme. Si vous avez des yeux qui ne voient pas, on ne peut pas voir à votre place. Si vous n'entendez pas, on ne peut pas entendre votre place. C'est ce que j'appelle la vie de l'esprit. La culture. Alors, ma troisième remarque, toujours dans cette deuxième partie, c'est que je crois qu'effectivement, le cinéma inaugure un rapport neuf à l'image. Il y a l'image des icônes, il y a les images des peintres, il y a les images musicales. Et je dirais à nouveau avec Deleuze que nous avons affaire à une formule bizarre, à une image mouvement. L'image, en principe, elle est fixée, elle ne bouge pas, elle est permanente, elle se dégrade, mais à la longue. Or, avec le cinéma, nous avons affaire à cet oxymore, comment disent-ils aujourd'hui les gens savants, une image mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est que le cinéma fait du mouvement, crée du mouvement avec des images instantanées, c'est-à-dire avec des plans. Deleuze, qui développe cette idée, a écrit lui-même de très beaux livres sur Bergson. Et on voit très bien qu'il reprend de Bergson cette très belle idée que finalement il faut faire une différence entre la temporalité segmentée et mécanique, segmentée plan par plan, et la durée. La durée qui est la continuité qui entraîne la première. Et voilà le paradoxe, c'est que la durée ne va pas, évidemment, sans la segmentation, mais que la durée habite la segmentation et la dynamise. Et on pourrait dire, avec Deleuze, je crois à juste titre, que le cinéma, il est du côté de la durée. Il est dans le temps, mais structurant et ordonnant le temps. La beauté, si beauté il y a, et quand il y a beauté, est autant dans la temporalité du temps que dans la durée du film. La beauté du cinéma, elle se révèle autant dans la durée, c'est-à-dire dans l'organisation de l'ensemble de ses plans, que dans les plans. Et on peut avoir des plans magnifiques et une continuité de scénarios ratés. Je pense en particulier à un cinéaste que j'ai beaucoup, je vais pas dire adoré, mais beaucoup aimé jadis, qui est Jean-Luc Godard. Le dernier Godard, c'est un Godard admirable au niveau des plans, des photos absolument splendides, mais il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de durée. Quelqu'un disait, il s'agit de perles sans collier. Et il me semble que c'est vrai du dernier Godard. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiques, mais ça s'affaisse, il n'y a rien. On a de magnifiques plans, mais un chaos de l'ensemble. Il n'arrive pas, pour employer à nouveau une formule nietzschéenne, à donner forme à son chaos. Et je dirais la beauté, la convergence de la beauté des plans, et il peut y avoir des plans ratés, bien entendu, et de l'organisation d'ensemble qui fait la beauté. Donc ça suppose à la fois une exigence de rigueur et de cohérence sous peine de films ratés. L'inverse du beau n'est pas le laid, ni l'horreur, mais l'avorté. Alors l'avortement du film, il peut être au niveau de plans ratés, qui ne collent pas, etc., qui sont horribles, ou de l'organisation d'ensemble. On est donc à la fois dans l'image, mais dans la fluidité des images. Et il me semble qu'il y a là un type de beauté différent de la peinture. On est devant un Rembrandt, on est devant un Cézanne. Alors bien sûr, on peut toujours dire avec Monet ou avec Cézanne, il y a plusieurs Saintes Victoires. Mais n'empêche que nous admirons une Sainte Victoire. La beauté du cinéma, elle tient dans sa fluidité. C'est que nous sommes emportés par la durée d'un film. Et c'est cette totalité flottante qui nous traverse, bien qu'elle soit insaisissable. Et il me semble que le cinéma appelle en effet, à la différence de la peinture, par exemple, ou de la musique, un regard propre, une contemplation en un sens impossible. Nous sommes sans cesse déplacés quand nous voyons un film, on ne peut pas s'arrêter, ou alors on casse le mouvement, on ne peut pas s'arrêter, ou alors, c'est qu'on étudie le plan lui-même, on casse le rythme. Et nous avons affaire ici, me semble-t-il, à une beauté paradoxale. Il faut se laisser emporter, pour voir cette beauté, un peu comme dans la musique et un peu aussi comme dans le roman. On peut revenir évidemment sur une séquence musicale ou sur un chapitre, mais on pourrait dire qu'au fond, cette paradoxale beauté, elle est certainement spécifique au cinéma par sa durée, mais qu'elle est vraie sans doute de toute beauté. Et le cinéma, de ce point de vue-là, relève de la catégorie de la beauté comme tous les autres beaux-arts. Il faut à la fois sortir de soi pour entrer et admirer, et il faut en même temps entrer dans l'œuvre, c'est elle qui nous emporte. Si l'on ne sait pas entrer dans l'œuvre et s'abandonner, on ne la voit pas. Et en même temps, il faut être soi-même dans l'œuvre qu'on regarde, sinon elle nous trompe et elle nous met dans l'illusion. Donc, me semble-t-il, le cinéma relève bien des canons de la beauté, mais il a cette beauté paradoxale d'être dans la durée et de nous emporter sur sa trajectoire, de nous obliger à nous abandonner à cette beauté, nous abandonner sans renoncer à nous-mêmes, à nouveau, beauté paradoxale. Alors, je voudrais, dans une troisième partie, si vous n'êtes pas épuisé par cet amas de beauté, dire aussi qu'il y a des conditions. Et si j'osais, j'intitulerais cette troisième partie sous le slogan d'une petite éthique du cinéma. Une petite éthique de la beauté cinématographique. Alors je voudrais retenir ici trois points qui relèvent de ce que j'ai dit précédemment. Alors je dirais d'abord un premier principe de cette petite éthique de la beauté cinématographique, c'est que l'image cinématographique, ou la fluidité, doit autoriser la distance. Si le film n'autorise pas la distance, on a affaire à de l'envoûtement, à de l'ensorcellement, à de la flatterie du spectateur qu'on caresse dans le sens du poil. Et il est évident que là, nous avons en effet d'innombrables films de la séduction, la violence, la pornographie, l'érotisme, ou encore ces cinémas qui nous dictent un message. Et ici, c'est certainement le risque très grand des films dits religieux et qui veulent démontrer, qui versent dans le prêchi-prêcha et qui perdent leur âme. Je pense en particulier à ce film que je déteste de Mel Gibson. Je sais qu'il a eu beaucoup d'écho chez un certain nombre de chrétiens catholiques, surtout conservateurs, La Passion du Christ. Alors ça, c'est typiquement le cinéma laid, le cinéma horreur, qui veut vous démontrer à coup d'hémoglobine que le Christ sent et saigne, qu'il souffre, que si vous n'avez pas compris à la fin, si vous n'êtes pas d'ailleurs à la fin complètement écrasé, c'est que vous êtes résistant. Bon, voilà, il n'y a pas de distance, vous ne pouvez pas prendre de distance, vous êtes tellement séduit et pris et emporté par cela qu'il n'y a plus de distance, vous n'existez plus. Par conséquent, je dirais que l'image ne doit pas brutaliser le spectateur par sadisme. Et évidemment, il y a tout un courant dans l'art contemporain pour ça. On pourrait se référer ici à Bertolt Brecht et la fameuse distanciation. Il faut faire souffrir le spectateur. Alors au théâtre, on va lui mettre des sièges inconfortables, si possible sans dossier, pour pendant 4 heures, etc. On va faire des scènes violentes, une musique épouvantable. Il y a un peu de ça, il faut souffrir, n'est-ce pas, le sadisme de l'image. Alors, bien entendu, il faut mettre le spectateur dans le malaise, le violenter en le bousculant. Alors, bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure, il faut certainement s'abandonner. Il faut certainement s'abandonner, mais sans se laisser engloutir. On pourrait retrouver là la critique, certes tout à fait méchante, que Nietzsche fait à l'égard de la musique de Wagner. Voilà une musique qui vous ensorcelle, qui vous enrobe, vous perdez pied, vous êtes entraîné là où vous ne voudriez pas. Je dirais que c'est typique aussi de films qui nous prennent aux tripes, c'est-à-dire par rapport auxquels nous n'avons plus... Bon, pendant que nous voyons le film, évidemment, il faut rentrer dans le film, mais il ne faut pas être séduit par le film. Autrement dit, l'image doit instaurer un pathos der Distanz, un sens de la distance, pour laisser le spectateur respirer, donc le solliciter et non pas le contraindre. Et donc un film qui joue sur la séduction, qui joue sur la violence, est certainement un film laid. Ce n'est pas un vrai film. Et là, on pourrait s'appuyer sur une assez belle tradition de critique cinématographique. Je pense à André Bazin, qui a beaucoup insisté sur cette idée. Amédée F, mais plus connu de nous, j'espère, Jean Collet, c'est la même idée que le cinéma doit... Voilà, et donc on voit bien que ces gens-là n'aiment pas les films qui vous séduisent et qui vous entraînent. Alors, je dirais que ce qui vaut du côté du spectateur doit valoir aussi du côté du scénariste. Il ne doit pas se cacher, il ne doit pas être sibyllin non plus, il ne doit pas offrir que des éclats sans suite. Il a à dire... Mais il a à dire dans le respect du spectateur, et je dirais que cette nécessité d'avoir quelque chose à dire et non pas à contraindre est le pendant du sens de la distance. Il me semble là qu'il y a un principe très important, une éthique rigoureuse et certainement rare dans le cinéma industrialisé et complaisant que nous connaissons. Il suffit de regarder les films qui sont souvent... primé au Festival de Cannes ou dans d'autres festivals. Ce sont des films de la séduction ou qui vont dans le sens du poil. Vous regardez simplement les attributions de prix ces dernières années. Donc le premier principe éthique moral, c'est d'assurer la distance et c'est ça qui fait la beauté d'un film. Alors la deuxième chose, c'est qu'un film doit proposer, on pourrait dire comme tout art, une mise en forme qui ordonne un contenu. Et c'est ici le rôle du montage, où beaucoup se décident. Il ne s'agit pas simplement de faire des photographies, de les mettre les unes à côté des autres. Il faut aussi organiser. Mise en forme qui doit maîtriser une matière plastique, souvent très abondante, car il y a beaucoup de rushs qui ne sont jamais utilisés. Il faut aussi se rendre compte de tous ces déchets, entre guillemets, du cinéma. Et qui, mise en forme, qui se fait dans une grande variété de procédures. Et c'est là qu'on peut trouver, en effet, une extraordinaire diversité dans le cinéma, cinéma comique, cinéma policier, cinéma historique, fantasy, etc. C'est la mise en forme qui va organiser cet ensemble et qui est tout à fait capitale. La forme ordonne et elle commande. Je dirais, le film réussi, le film beau, qu'on peut estimer beau, c'est celui dans lequel domine le rien de trop que va en effet trier le cinéaste dans la mise en scène, dans la mise en forme, dans le montage. Le rien de trop est le juste ce qu'il faut. Le juste ce qu'il faut. Donc, il faut aussi de l'allusif, il faut du sous-entendu, quelque chose qui n'écrase pas, qui ne soit pas trop insistant, du suggéré. Alors, je peux prendre l'exemple, si vous voulez, de Tati, Jacques Tati, nous fait rire, non pas la grosse plaisanterie, s'il lui arrive quelquefois, mais rarement, c'est par l'allusion. Voilà, tout le monde a en tête les films, les vacances de M. Hulot, etc. Sa critique spirituelle du monde moderne, c'est pas lourd, c'est pas dégradant du monde moderne, il s'en amuse. Mais il est dedans. Playtime, peut-être moins réussi. Mais je dirais la même chose d'un très grand qui est Charlie Chaplin. Les temps modernes, le dictateur, il ne nous fait pas un cours sur le nazisme avec le dictateur. Il ne fait pas trembler. D'ailleurs, il semble qu'à ce moment-là, il ignorait les camps de concentration. A-t-il dit, si j'avais su ça et fait le film en 1945, je n'aurais peut-être pas fait le dictateur. Bon, heureusement, il l'a fait. Mais il démonte Hitler en moins de deux. Il n'y a pas besoin de grand discours. Tout le monde comprend par les allusions. Féroce. Voilà, c'est ça que j'appelle la discussion. Rien de trop. Juste ce qu'il faut. Si vous êtes intelligent, vous comprenez. Si vous avez des yeux pour voir, vous voyez très bien de quel côté se situe Chaplin. Alors, ça peut concerner aussi des films d'horreur. Je pense au film d'un Cambodgien qui s'appelle S21, La machine de mort Khmer Rouge, film terrible de 2003, où il filme un lieu d'horreur, de torture, qui était l'ancien lycée français de Phnom Penh, où il fait revenir des témoins, y compris les bourreaux. Alors, il n'y a pas de commisération, il n'y a pas d'un... Les gens parlent, disent. Et si vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, vous comprenez. Alors, je dirais qu'il y a même dans ces images d'horreur une éthique de la beauté. Une éthique de la beauté. Ces auteurs trouvent le juste ordonnancement des plans et des séquences en fonction de la visée du film. Il ne vous fait pas cet auteur qui s'appelle Riti Pan. Il ne fait pas un discours moralisateur contre la torture. Il vous montre les témoins. Ça suffit. Si vous comprenez, vous comprenez. Je dirais, c'est l'éthique du rien de trop. Le premier point, c'est l'éthique de la distance, l'éthique du rien de trop et de la suffisance ou de la plénitude. Rien de trop, c'est ça qui atteint sa fin. On pourrait dire qu'il y a une sorte de gratuité. Il ne faut pas insister trop. Les gens comprennent ou comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Tant pis. Là, c'est ça la beauté. Elle fait signe. Et je voudrais reprendre une très belle phrase d'un de nos compagnons du XVIIe siècle, le jésuite espagnol Balthazar Gracian, qui a cette belle formule, « La beauté n'a pas besoin d'arguments. » Vous voyez, quand on argumente, l'avocat, il veut prouver. Chaplin ne veut pas prouver. S'amuse. En s'amusant, il démolit. Au bon sens du mot. Alors, la dernière remarque, c'est que la beauté pressentie, elle se découvre à travers un regard, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'y reviens, à travers une approche ou une perspective propre à un auteur. Une perspective, perspectivismus. Le film ne nous fait pas voir, contrairement à ce que dit Deleuze, le monde en général comme un substitut du monde commun. Mais un monde singulier, particularisé, le monde de Tati, le monde de Ran, de Pan, le monde de René. Elle nous fait découvrir une certaine façon de vivre et d'entendre le monde commun. Au cinéma, si nous avons affaire à un grand film évidemment, nous rencontrons un sujet qui nous parle et qui signifie. Bresson. Chabrol, Lang, pas Jack, hein, Fritz, John Ford, Visconti, Rossellini, etc. Beauté qui ouvre à un monde propre et qui nous permet à nous un regard autre sur le monde. Grâce à Bresson, grâce à Rossellini, nous voyons le monde comme nous ne l'avions jamais vu. Mais c'est vrai de Cézanne, mais c'est vrai de tout grand artiste. Ouverture qui nous dévoile la richesse ou la pauvreté des regards humains sur le réel et qui permet à nouveau la divergence de goût, d'appréciation. Nous avons affaire à un regard tendre ou pervers sur le monde, un regard dégradant ou complice, un regard superficiel ou profond. D'où l'ouverture à des styles de beauté, il n'y a pas la beauté, mais des styles de beauté, des approches subjectives. Et donc je parlerai volontiers de la pluralité de la beauté, en général, mais certainement au cinéma, par là même de la transcendance, puisqu'elle dépasse cette beauté, chacune des formes où elle se dévoile, où elle fait signe. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on n'en a jamais fini, au bon sens du terme, avec la découverte du beau. à la fois parce qu'il y aura toujours des créateurs, espérons-le, et puis je dirais aussi parce qu'on en a jamais fini de voir un grand film. Le dictateur de Chaplin, on n'a jamais fini de le voir, on découvre toujours des choses nouvelles, etc. Comme on n'a jamais fini d'écouter, évidemment, un morceau de Mozart ou de Beethoven. Je dis là une banalité, mais cette banalité, elle vaut, me semble-t-il, aussi pour le cinéma. Alors, je conclue. Le cinéma, je ne sais pas si je vous en ai convaincu, offre des styles neufs de beauté. Et c'est une conquête surprenante à la fin de ce millénaire dont on nous dit qu'il est épuisé, qu'il sources de création sont mortes, etc. Alors, le point que je voudrais souligner en conclusion, c'est que cette nouvelle beauté n'efface pas les beautés, les modes antérieurs de la beauté, qu'au contraire, le cinéma nous permet de les revisiter et de les renouveler. Alors, je donne quelques exemples, vous renvoyant à votre culture cinématographique. Il est certain que le cinéma nous a permis de relire un certain nombre de grands textes de la littérature. Grâce à Bresson, nous relisons Bernanos, Mouchette, le journal d'un curé de campagne. Nous ne lisons autrement. Bresson n'a pas l'illusion de nous donner du Bernanos en images, c'est du Bresson, mais du Bresson qui nous oblige à lire Bernanos autrement. Proust ou Wagner, nous les retrouvons autrement à travers Visconti, Mort à Venise, ou La recherche du temps perdu. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Nous, Princesse de Clèves, que toute la critique bien-pensante a exalté en 2011, évidemment, ne revisite rien du tout. Mais, voilà à nouveau, ça peut rater. Il y a donc, dans la littérature, dans l'histoire, alors, Dreyer avec Jeanne d'Arc. Est-ce que nous connaîtrions Jeanne d'Arc comme nous, le grand public la connaît aujourd'hui, sans Dreyer et sans Bresson? Nous la voyons autrement qu'à travers des livres, la Jeanne d'Arc. Le procès de Bresson. Je dirais aussi la prise de pouvoir par Louis XIV de Rossellini. Là encore, nous relisons l'histoire autrement. C'est vrai en architecture, grâce à la télévision surtout, mais au cinéma, nous voyons les grandes œuvres artistiques. Je ne sais pas si vous avez vu récemment un film sur Sainte-Sophie. Bon, on découvre Sainte-Sophie à travers l'histoire, et les fresques, comme aucun touriste ne peut les voir. Donc, ça n'annule pas la beauté de Sainte-Sophie, ça la redéploie autrement. Mais je dirais la même chose en politique. Vous avez peut-être vu le film de Clint Eastwood, Invictus, nous fait revivre Mandela de manière autre et nous donne déjà le sens de l'audace de ce grand homme d'État que nous n'aurions peut-être pas entrevu à travers les images de la télévision. Mais on pourrait dire aussi Raymond Depardon sur la campagne électorale présidentielle de Giscard d'Estaing, film que Giscard n'a pas d'ailleurs beaucoup aimé, qui s'appelle Une partie de campagne, film de 1974, où l'on découvre des aspects que l'on n'aurait peut-être pas vus de Giscard d'Estaing. Alors, c'est vrai en littérature, c'est vrai en architecture, c'est vrai en politique, c'est vrai en peinture. Les palettes, c'est plutôt de la télévision, enfin les palettes de la télévision, nous font voir, en effet, par exemple, les quatre saisons de Poussin, telles qu'au Louvre, il est impossible de les voir, parce que la caméra arrive à détecter des détails tout à fait significatifs. Alors, je dirais, tout ceci montre que le cinéma ne vient pas annuler les autres arts, contrairement à ce qu'on dit souvent, au contraire, peut leur donner une nouvelle vie et de nouvelles chances à la beauté. Autant de signes que la beauté ne cesse pas d'habiter des créateurs qui reviennent sur nos traditions pour les rendre vivantes, des beautés qui supposent des regards, des yeux pour voir, et ce que la philosophe Simone Weil appelait l'attention. L'attention qui suppose effectivement la mobilisation de celui qui voit. Beauté toujours neuve. Et je terminerai simplement par deux petites citations. L'une du poète Philippe Jacotet, et il me semble que sa formule s'applique bien au cinéma, « Chose belle à proportion qu'elle ne se laisse pas prendre ». chose belle à proportion qu'elle ne se laisse pas prendre. Et puis, cette formule du philosophe lyonnais Henri Maldinet, qui vient de mourir à plus de 100 ans, il écrit ceci: « Beau n'a pas encore livré son ciel ». Formule énigmatique, mais qui laisse entendre que, en effet, nous n'en avons pas fini, heureusement, avec la beauté. Beau n'a pas encore fini son ciel. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup, Paul, pour cette belle réflexion, profonde réflexion. Et on voit à travers toutes les dimensions que tu as évoquées, que tu soulèves, combien l'éthique, le domaine de l'anthropologique, le spirituel, voilà, sont présents, combien tout ce que tu as présenté, je crois, nous met au cœur, au fond, de notre propre réflexion, et que ce que nous avons entendu ne peut que nous stimuler dans une réflexion philosophique, théologique. Voilà, ce qui est dit là est extrêmement central pour nous. Alors, nous avons un petit moment, voilà, une dizaine de minutes ou un petit quart d'heure pour peut-être échanger avec Paul, poser des questions. Un micro va circuler si j'arrive à l'allumer. C'est bon, non, c'est pas bon.
Vous parlez fort.
Oh, c'est toujours... Il y a toujours une technique. Oui, bien sûr, mais lequel?
Nous avons des oreilles pour entendre.
Et quelqu'un a l'air de savoir.
Oui, ça y est.
Si quelqu'un... Acceptez de le faire circuler, c'est gentil. Voilà. Deux mains qui se lèvent. Nous allons entendre les deux questions.
Bonjour. Et mon question, c'est plutôt un petit peu philosophique, différent que le cinéma, mais c'est la relation entre la beauté et la vérité. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose comme une esthétisation de la guerre, par exemple, non? De la pauvreté, de la misère. Donc, et ça, esthétisation, cache la vérité. Il y a... Bon, c'est ça.
Et on profite d'entendre la deuxième question dans la... Voilà.
Merci beaucoup. Il y a eu une grande insistance sur l'image. Je me suis dit, au niveau de l'art total, la prise en compte de l'intrigue, du scénario, de l'écriture, c'est la dimension de parallèle avec l'écrit ce qui est lié à l'ordonnancement dont vous avez parlé. Et l'autre chose, c'est la musique aussi, la place de la musique. Donc, le dialoguiste qui, par certains côtés, se rapproche de l'homme de théâtre. Donc, finalement, la dimension intégration de différents arts dans cet art-là.
Bon, sur beauté et vérité, moi je serais porté à ne pas trop chercher une identification rapide. Sinon, on tombe dans ce que j'ai un peu dénoncé tout à l'heure, le cinéma au service d'une cause, ou d'une idée, ou d'une propagande. Et je crois qu'il faut au contraire laisser respirer les ordres de choses. Je ne suis pas très pascalien, mais enfin je crois quand même que la beauté a son ordre propre, qu'il faut qu'elle le respecte, et que le créateur le respecte. La vérité, c'est un autre ordre de choses, et si on mélange les plans, je crois qu'on va rater la beauté, je pars à nouveau à Passion du Christ de Magic Gibson, et on va rater la vérité, parce que du coup, une vérité assénée, une vérité démontrée de manière trop forte, n'est plus la vérité. Donc je serais plutôt porté à dire, écoutez, ne faites pas trop, ne cherchez pas trop un cinéma... qui va vous dire la vérité. Dans la beauté, il y a une vérité, mais c'est la vérité de la beauté. C'est la vérité de la beauté. C'est pas la vérité, évidemment, au sens conceptuel du mot. Mais, à nouveau, je serais assez nietzschéen. Je dirais, une vraie beauté, c'est celle qui vous donne le goût de vivre. La beauté d'un visage d'enfant, d'un vieillard visage ridé, c'est une beauté qui vous donne envie de vivre. C'est une vérité aussi, ça, plutôt que de vous écraser. Voilà, alors on peut faire des films pédagogiques, ça c'est autre chose. On peut faire des films pour l'école où on va faire un film sur, je sais pas quoi, moi la Chine, et puis on va faire des photos. Mais ça c'est autre chose, c'est du cinéma si on veut. Ça peut et ça doit être beau. Mais voilà, je sais peut-être pas bien comprendre la question, mais je crois que...
Mais est-ce que le terme esthétisation...
Ah oui,
il ne renvoie pas à autre chose, précisément, que la beauté.
Oui.
Enfin, c'est ce que j'entendais un petit peu dans la question, esthétisation de la pauvreté, esthétisation de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas aussi une violence de ce côté-là, enfin, autre chose que faire signe.
Oui, tout à fait, mais la limite est très difficile. Je viens de voir un film brésilien d'un photographe qui va photographier des gens, il y a un mot portugais que j'ai oublié, qui font du tri dans les poubelles, enfin
dans les favelas,
oui, ça, dans les où on déverse les poubelles, enfin c'est un... Bon, il fait de la beauté avec l'horreur, quoi. Et puis on se dit, en plus, il a une grande sympathie pour ces gens et il en prend quelques-uns pour en faire des photos qu'il expose et il les invite à ses expositions. Donc il gagne, ces gens-là gagnent tout d'un coup des millions. Alors on se dit, est-ce qu'il n'y a pas une esthétisation de la misère? Il y a ceux qui réussissent, puis tous les autres qui l'a pas pris. Alors c'est ça que c'est un peu gênant. Mais malgré tout, quand on voit le film, c'est quand même beau. Parce qu'il montre la beauté des visages de ces gens, leur sens de leur dignité. La plupart des gens interrogés par ce type disent, moi, effectivement, je ramasse des poubelles, mais mieux vaut ça que la prostitution ou la drogue. Donc j'ai ma dignité en faisant ça. Un chapeau. Il y a une beauté là-dedans quand même. Alors, mais c'est vrai que la limite est toujours... Hein, est-ce qu'on ne joue pas avec la misère, la violence? Il y a un risque, parce que la violence fascine. La violence fascine, on le voit bien à la télévision. C'est beaucoup plus intéressant. Comme toujours la même histoire, les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse pas, mais un beau massacre, ça c'est magnifique. Ça fait de l'audience. Non, c'est... Oui. Je ne sais pas si je réponds un peu... Alors, oui, sur l'image, le dialogue, etc., je l'ai dit tout à l'heure en commençant, je crois que c'est ça qui est assez fascinant, c'est que le cinéma est un art assez total, c'est-à-dire qu'il implique la musique, il implique un scénario, mais je crois quand même qu'il y a un primat de l'image. Si la musique est trop violente dans un film, ça colle pas, ou trop somptueuse, on va sortir du Wendel, etc., sur des images où... Voilà, c'est juste un manque de goût, là, un manque de sens de la distance. Handel, c'est Handel, ne le prenez pas pour une dame qui va acheter sa miche de pain à la boulangerie, quoi, quand même. Alors, je crois quand même qu'il y a un primat de l'image, je peux me tromper. Hein. Le scénario compte, mais après tout, il y a des films sur... je disais tout à l'heure, ce film sur Sainte-Sophie, il n'y a pas de scénario. Mais c'est... Parce que c'est l'image qui compte, on découvre tout d'un coup des choses splendides. Mais c'est vrai que le cinéma est intégrateur, mais il faut qu'il donne forme à ce chaos d'intervention. Il ne faut pas qu'il soit trop bavard, encore que Romer fait beaucoup parler ses belles actrices, mais elles sont belles, donc on les écoute et puis on les voit. Mais à nouveau, c'est l'image. Mais il ne démontre pas... Non, mais c'est vrai, c'est un art qui intègre beaucoup de choses, la parole, la beauté des acteurs ou leur laideur. Après tout, on peut jouer sur la laideur des acteurs, mais il faut savoir lui donner forme. Dans un sens, je trouve que c'est un art très, très intéressant, hein, très, très multiple, très polymorphe.
Chez Romer, il y a un style très, très littéraire aussi, très construit. Très...
Ah, tout à fait, oui. Très, ah, ben, c'est un cinéma d'intello. C'est un cinéma d'intello. Mais c'est quand même pas un cinéma prédicant, c'est un cinéma de la réserve, de la distance, du bon goût, quelquefois un peu bavard, et quand on les revoit, un peu bavard.
Tu n'as pas évoqué Fellini, où l'image est...
Oui, Fellini, oui. Ah ben, alors là, il prend des visages horribles souvent. Oui, mais en peinture aussi, Toulouse-Lautrec ou Rouault nous font voir des choses horribles, mais ils les voilà, ils se complaisent pas dans l'horreur. Toulouse-Lautrec peint des prostituées, mais il n'a pas de mépris pour elles, pour des raisons personnelles d'abord, mais indépendamment de ça, comme le film brésilien, il montre des gens qui ramassent des ordures et Dieu sait dans quelles conditions, mais il montre aussi la dignité de ces gens. Plus souvent que des traders, hein, qu'on pourrait photographier aussi.
D'autres questions ?
Oui, n'y a-t-il pas une transformation de la situation ? Tu évoquais un art qui a 150 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une société où s'est intensifié le rapport à l'image. Et que, j'allais dire, voir un film de Charlie Chaplin dans les années 40, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui, voir un film, alors que nous sommes environnés d'images, parce que nos écrans tournent en permanence. Et du coup, est-ce que ça ne permet pas de comprendre que, face à un risque d'épuisement de l'image, un certain nombre de créateurs partent uniquement dans la provocation ? C'est-à-dire pour rendre à nouveau signifiante quelque chose qui devient aussi banal, l'image.
Mais c'est vrai aussi de la littérature. Hein. Quand on regarde les productions actuelles, là aussi, il y a une complaisance, il y a un avilissement. Ça peut se produire aussi au cinéma. Moi, ce que j'espère, c'est que parmi tous ces détritus, parce qu'il faut dire qu'il y a des tas de détritus au cinéma comme dans la littérature, hein. Cette année, la rentrée littéraire, il y a 600 ouvrages, bon. Il y a des détritus là-dedans. Mais moi, ce que je veux espérer, c'est qu'il y aura quand même des hommes et des femmes qui seront capables, qui seront animés du désir de faire du beau avec ça. Et un beau que nous ne connaissons pas encore. Beau n'a pas encore connu son ciel. Ça, je l'espère beaucoup, parce que les techniques bougent, par exemple. Hein, on ne filme plus non plus comme en 40. Ça, c'est évident. Donc, la technique bouge, elle sera porteuse, on peut le penser sans excès d'optimisme, elle sera porteuse de nouvelles façons de voir, d'appréhender le réel, Alors, il faut désespérer de la créativité humaine. Or, quand même, l'histoire des hommes, qui est marquée en effet par des tas d'horreurs, nous le savons bien, elle est marquée aussi par le fait qu'à travers ces horreurs, il y a des hommes et des femmes qui aspirent au beau, à la beauté. Et il faut espérer que ça ne cessera jamais. Mais heureusement qu'ils ne reproduiront pas Bresson, ils ne reproduiront pas Robert, ils trouveront autre chose. Parce que les problèmes seront autres. On n'aborde plus aujourd'hui... Par exemple, le cinéma actuel aborde beaucoup les problèmes d'euthanasie. Bon, il y a 30 ans, personne n'en parlait. Almodovar a fait un film là-dessus et beaucoup d'autres. Brisé a fait un film très, très beau sur l'euthanasie. Bon, c'est une façon de regarder la mort qui n'est pas celle de René dans Aimer, boire et chanter, mais c'est un autre regard sur la mort, une autre façon de regarder la détresse humaine, quelquefois un peu apologétique dans le cas de l'euthanasie, oui. Enfin, encore une fois, si c'est un film de propagande, je dirais que ça se voit, et si on est un tout petit peu intelligent, on ne se laisse pas prendre au piège. Mais c'est vrai d'un roman qui peut vous envoûter et vous faire perdre les pédales. Si on n'est pas vigilant, c'est toujours la même histoire. L'art a besoin de gens qui soient avertis pour ne pas être victimes de ce qu'ils voient ou de ce qu'ils entendent. Hein.
Une dernière question, peut-être dernière ou avant-dernière.
Est-ce que l'accélération du temps ne se répercute pas sur le cinéma ? Enfin, je n'ai pas une grande culture cinématographique, mais il me semble que le rythme des films s'accélère beaucoup. Enfin, il y a bien sûr beaucoup d'exceptions, sûrement, mais qu'on passe très très vite, très très vite, d'un plan à un autre, d'une image à une autre, un peu comme si on avait peur parfois que le spectateur s'ennuie. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même de ce côté-là dans l'évolution du cinéma ?
C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, on voit ça à la télévision. Il faut des flashs. Il ne faut pas que ça dure trop. Les films. On voit bien dans le cas des films russes qui sont très lents et très longs. C'est pas très populaire parce qu'il faut du temps, mais je crois en même temps que voilà, c'est la sensibilité du spectateur n'est plus la même, ses attentes sont plus les mêmes. Il me semble que le véritable créateur, c'est celui qui est capable de faire quelque chose avec ça. capable de faire quelque chose avec ça. Alors, il y a ceux qui vont s'abandonner au courant, qui vont jouer sur l'instantanéité, on n'a pas le temps de voir un plan qui a disparu. Et puis, il y a ceux qui seront capables, parce qu'ils sont de vrais créateurs, de tirer du bon à partir de ça. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer de ça. Mais ça peut aboutir à des catastrophes, ça on le voit bien. On peut dire aussi à l'inverse que plus nous sommes pris par l'instantanéité, plus nous serons portés à apprécier ce cinéma à la russe, parce qu'il nous ouvre un espace de contemplation. Et ça nous sort de notre petit écran. On a besoin aussi, de temps en temps, de respirer un peu. Et de ce point de vue-là, on peut retourner l'argument, dire mais ça donne une chance, au contraire, à la contemplation, au moins pour quelques-uns, peut-être pas, ça sera peut-être pas très populaire, parce qu'on en a assez d'être assailli par un flot d'images incessant. Donc on a besoin aussi de cette distance, quoi. On peut l'espérer. Et donc, je crois que de vrais créateurs seront capables de jouer sur ces tableaux aussi. Non, je crois qu'il ne faut pas désespérer. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent tout est perdu, on a des nouvelles techniques vont nous engloutir. Ben oui, elles peuvent nous engloutir. Mais il faut toujours espérer qu'il y aura quand même des hommes et des femmes capables d'assumer cette technique et de lui donner le meilleur. Ou alors on désespère du génie humain. Je ne crois pas au génie inconditionnellement. Mais enfin, il y a, et j'espère il y aura, des créateurs. Pas beaucoup. Mais l'art a toujours quelque chose d'élitiste, il faut quand même bien dire. Mais le cinéma a cet intérêt qu'il n'est pas seulement élitiste. Il peut toucher les grandes masses. Et il peut toucher tout le monde au-delà des cultures, je crois. Par exemple, le cinéma iranien, dans des conditions effroyables. Vous voyez, voilà l'exemple. Nous sommes tous, je pense, un peu effrayés de ces femmes en noir dont on ne voit même plus le visage. Bien, si vous allez voir La Séparation et puis un autre film de lui, vous apercevez qu'il arrive à faire avec ces femmes cadavériques, enfin, qui sont des sacs de charbon, il arrive à faire de la beauté. Elles sont belles. D'abord parce qu'elles arrangent toujours à mettre un petit truc très féminin, mais il arrive à faire de la beauté. Avec des choses qui sont... qui sont laides, enfin qui sont... Voilà, il arrive à tirer de ça, sous certains angles, sous les voiles, quand elles courent, etc. Il y a une beauté que n'ont pas les mini-jupes. Elles ont une autre beauté, mais pas celle-là.
Ou ça peut dépendre. Bien, merci beaucoup, Paul, pour ton intervention.